ce sont les loups qui sont de plus en plus nombreux en France, qui sont aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard.
Oui Mathieu, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie son bilan à la sortie de l'hiver. Il estime que les loups sont environ 500 à vivre dans nos forêts contre 430 l'an dernier. Victoire pour certains, inquiétude pour d'autres. Le loup est toujours un sujet complexe et on en discute en duplex depuis Strasbourg avec vous, Yvon Lemahaut. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éco-physiologiste, professeur émérite pour le CNRS. Et il y a un an, vous étiez à ce micro pour nous présenter le plan loup que vous avez coordonné et qui fixait ce seuil à 500 individus comme le minimum de viabilité à atteindre pour l'espèce. Les nouvelles sont bonnes alors car l'objectif, on y est aujourd'hui.
Alors effectivement, j'ai présidé l'expertise collective qui rassemblait des spécialistes de la question, notamment spécialistes de la démographie du loup, mais aussi des généticiens. Et ça me permet de dire que effectivement, on a atteint un niveau qui devrait permettre à la population de se maintenir, à condition, bien sûr, qu'elle ne soit pas isolée. Car nous l'avions dit à l'époque, il faut concevoir les choses au niveau européen. Et si cette population était isolée des autres, c'est-à-dire que si on empêchait tout transfert, il faudrait le double de loups.
Quand vous dites donc, isolé et transfert, vous pensez à quoi
isolé,
pour le loup en lui-même?
C'est-à-dire en empêchant par exemple les transferts à partir du Mercantour, qui sont à l'origine, c'est à travers le Mercantour que s'est fait le retour du loup, car bien sûr il n'a pas été introduit, il est revenu de lui-même. Donc première exigence, que les transferts soient maintenus pour que cette population de 500 loups soit suffisante. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que ce transfert de loups, il a un deuxième rôle qui est génétique. Il faut qu'il y ait un brassage génétique et c'était la deuxième condition du maintien. Et pour l'instant, eh bien, on attend encore, les études sont en cours pour savoir si de ce côté c'est positif.
Alors pourquoi est-ce que, très rapidement, la génétique est une condition de viabilité sur notre territoire pour le loup? Est-ce qu'on pourrait emmener le loup vers une extinction, même s'il y en a beaucoup?
Alors, une population qui est génétiquement coupée des autres est une population qui n'a pas la diversité nécessaire. Donc les brassages génétiques sont absolument indispensables. On le sait pour beaucoup d'espèces, et c'est vrai aussi pour le loup. Maintenant, le problème du loup, je pense qu'on va y venir, c'est qu'il est l'indicateur d'une nature qui ne va pas bien.
Oui. Alors, et plus de loups, c'est aussi plus d'attaques. Il faut qu'on en parle quand même, parce que en 2018, c'est 4000 sur des troupeaux et 12000 bêtes blessées ou tuées. Est-ce que sans l'élevage, les loups pourraient survivre en France? Est-ce qu'il y a assez à manger dans les forêts pour 500 ou plus?
C'est juste, il y aurait de la nourriture pour plus, à condition, bien sûr, que le gibier ne soit pas exploité, surexploité. C'est d'ailleurs ce qu'a montré le film d'Anno sur réalisé en Mongolie intérieure sur le dernier loup, hein, qui est un film qui montre bien l'importance du maintien d'une population, enfin d'un gibier pour le loup.
Mais plus spécifiquement pour un loup qui vit dans une forêt en France, est-ce que c'est plus facile d'attaquer un mouton dans un enclos ou une biche qui vague dans la forêt?
Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord connaître la structure des populations de loups. Et par exemple, un loup en dispersion seul risque davantage de s'attaquer à des moutons plutôt qu'une population structurée dans une forêt qu'il connaît bien, que connaît bien cette population comme une meute, par exemple.
Alors, je suis désolé, on a très peu de temps, je vais vous poser une dernière question parce que l'émission doit avancer derrière. Quelle est la bonne solution? Est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment faire avancer l'élevage et les populations de loups sur le territoire français, qui est un territoire petit quand même?
Alors, comme pour le reste de l'agriculture, les éleveurs ont besoin du soutien de la population, des citoyens français. Ils ne doivent pas être seuls en première ligne. Se protéger d'un loup, ça veut dire revenir à des moyens de protection que l'on connaissait bien, avec des chiens. Il y a une sélection. Les enjeux sont quand même assez incroyables, puisqu'aujourd'hui, il faut que le chien protégeant un groupe de moutons puisse aussi bien protéger, attaquer le loup, que ne pas, par exemple, attaquer quelqu'un qui arriverait en parapente au milieu des moutons. Donc ce n'est pas simple. Le deuxième point, quand même, dont on ne parle pas suffisamment, à mes yeux, et notamment Jean-Marc Landry travaille beaucoup dans ce domaine, c'est qu'il faut mettre au point, on a aujourd'hui des technologies qui permettraient d'aider davantage les éleveurs et de se protéger plus efficacement contre le loup. Par exemple, ce qu'il fait avec des caméras infrarouges nous donne beaucoup d'informations. Donc la technologie existe, mais on n'a pas en science, et c'est un problème qui me préoccupe, on n'a pas dans le domaine de la biodiversité des financements suffisants. Il faudrait vraiment un effort dans ce domaine pour accéder à ces nouveaux moyens technologiques.
Une dernière question sur les prélèvements, par exemple, en réaction à ces chiffres. Le préfet du Rhône a déjà annoncé qu'il allait augmenter le seuil qui passerait de 38 individus à 53. Est-ce que, on le sait, c'est une solution qui fonctionne pour protéger les troupeaux d'abattre certains loups qui traînent autour ?
Les travaux scientifiques sont contradictoires. Il y a beaucoup d'études en cours dans ce domaine, comme vous en doutez, et rien ne prouve pour l'instant que c'est efficace. Et d'autres arguments, tels que par exemple la déstructuration de meutes, qui va amener des individus en dispersion à attaquer davantage les moutons, sont en question.
Merci beaucoup Yvan Lemao, vous êtes écophysiologiste et professeur émérite pour le CNRS. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.